santé. Clair et Don.
Bonjour à tous, vous venez de l'entendre dans le journal, aujourd'hui c'est la journée mondiale contre le cancer, une maladie de plus en plus fréquente dans les pays en développement. Le cancer y fait aujourd'hui plus de victimes que le sida, la tuberculose ou le paludisme. Plusieurs formes de cancer se soignent maintenant dans les pays occidentaux, mais les traitements sont chers, souvent inaccessibles, sans couverture santé. Je vous propose donc de faire le point sur l'accès aux traitements dans les pays en développement, et pour en parler je reçois le professeur Jean Lemerle, qui est président du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, et le docteur Joseph Sabat, qui est cofondateur et directeur général d'Axios, qui est une organisation dont la mission consiste à améliorer les services de soins de santé dans les pays en développement. Si vous souhaitez participer, comme d'habitude, vous nous appelez au 33 1 56 40 18 22. Je répète, 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Claude Morera, qui est responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Le Dantec à Dakar, au Sénégal. Nous aurons également le professeur Paul Ndom, qui lui est chef de service d'oncologie médicale adulte à Yaoundé, au Cameroun. Et nous terminerons avec un reportage de Marina Mielzarek, qui s'est rendue dans un atelier du goût. Docteur Joseph Sabat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Le professeur Lemerle est en train de nous rejoindre. Il a eu quelques petits problèmes pour nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais que vous nous précisiez quelques chiffres, parce qu'on commence à avoir quelques chiffres, même si j'imagine que ce sont des supputations, sur l'ampleur du problème dans les pays en développement. Quels sont les chiffres ?
Oui, en effet, les chiffres sont surprenants par leur ampleur. En fait, plus on voit ce qui se passe au niveau des pays en développement sur le cancer, plus on est surpris.
Toujours dit que c'était une maladie des pays riches.
Voilà, tout à fait. C'était l'impression, mais en fait, c'est une maladie qui rongeait les pays pauvres de plus en plus sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'il y a très peu de moyens diagnostiques et donc on ne savait pas. Il y a 7,6 millions de morts par an du cancer. Ce chiffre va augmenter jusqu'à 5 fois plus en 2020. Le nombre de morts est beaucoup plus important que dans les pays développés, parce qu'il n'y a pas d'accès au traitement, parce que les diagnostics sont faits de manière extrêmement tardive. Et donc cela constitue à peu près 60 à 65% des décès par cancer se font dans les pays en développement.
Et vous l'avez dit, vraiment, la principale cause, c'est l'accès au traitement, l'accès au dépistage, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. Est-ce qu'on a une idée du pourquoi ces cancers sont-ils en augmentation dans les pays en développement ? Parce qu'au début, on a dit que c'était une maladie justement des pays riches, de la façon de vivre. Pourquoi sont-ils aussi en augmentation dans les pays en développement ?
Cette façon de vivre, elle est en train d'être acquise dans les pays en développement. Il y a beaucoup d'urbanisation, donc le changement de mode de vie, le changement de mode alimentaire, la pollution, donc tous ces facteurs influent. Il y a aussi, dans cette augmentation, on se rend compte, une partie de l'augmentation est liée au fait qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de cancers, parce que maintenant, on a des moyens plus simples. Il y a eu quand même pas mal de progrès au niveau du diagnostic du cancer, et on s'aperçoit maintenant qu'il y a pas mal de cancers qu'on ignorait avant.
Et une partie de ces cancers trouvent leur base, je dirais, dans des infections. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles et justement pourquoi ils sont particulièrement présents, du coup, par exemple sur le continent africain, mais dans les pays en développement en général ?
Voilà, par exemple, sur le continent africain, il y a plusieurs cancers viraux au niveau d'un virus pour les cancers du cou. Pour le cancer du foie, par exemple, c'est l'hépatite B, c'est assez simple. Ça fait 20 ans qu'on a un vaccin contre l'hépatite B, mais ce vaccin n'est pas encore
cher pour les pays en développement.
Il est encore cher, il n'est pas encore bien diffusé, donc tout cela contribue à cette augmentation.
Le papillomavirus aussi, le cancer du col de l'utérus.
C'est la première cause de cancer chez la femme, qui est très important et qui est immense en fait dans les pays en développement. Le problème, c'est 80% des personnes qui sont diagnostiquées par le cancer arrivent à un stade tellement avancé dans les pays en développement qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
Or, le cancer du col de l'utérus, par exemple, se soigne bien, et entre autres, on peut surtout le dépister suffisamment à temps pour ne pas avoir les complications.
Depuis longtemps, mais récemment, il y a eu beaucoup de progrès dans le dépistage du cancer du col, avec des moyens visuels pas chers, des moyens de traitement où en un quart d'heure, immédiatement, on arrive à soigner la femme. Donc, aujourd'hui, il faut faire bénéficier de ces... De, de ces moyens de diagnostic.
Expliquez-nous en deux mots ce moyen de dépistage très simple. C'est quoi pour le cancer du col
utérus? C'est très simple, c'est avec un spéculum, donc on examine le col, on met un peu de vinaigre, d'acide acétique, et s'il y a un point blanc, c'est qu'il y a un cancer. Et là, il y a une cryothérapie qui est un moyen de traitement qui va geler ce cancer et bien sûr le tuer. Et c'est fini. La femme est guérie. Ça dure.
Le tout est de venir à temps.
Le tout est de venir au moment où cette lésion n'a pas envahi la plupart du
corps. Ça, on insistera sur l'importance de ce dépistage. On a Mahmoud qui nous appelle de Lomé au Togo. Mahmoud, bonjour.
Bonjour, madame.
Je crois que vous avez une question à poser à notre invité, le docteur Saba.
Oui. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, et vous?
Bon, oui, ça va très bien, c'est moi. Bien, merci. J'aimerais savoir, ma question, docteur, puisque j'entends très longtemps, on parle de cancer, et moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. D'abord, j'aimerais que vous me déterminiez qu'est-ce qui est cancer réellement.
C'est vrai que c'est toujours impressionnant, docteur Saba, parce qu'on parle de cancer sur des organes très, très différents. On parle du cancer de la prostate, du cancer du sein, du cancer du col utérus, du poumon. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot?
Si on veut schématiser, en fait, le cancer, ce sont des cellules qui se mettent à se reproduire de manière irrationnelle et non contrôlée. On ne sait pas très bien pourquoi, parfois par impulsion virale, donc c'est la cause des infections, parfois à cause de, de la pollution. Et donc, elles se mettent à se multiplier, elles commencent à envahir les autres tissus.
Et ce sont des mauvaises cellules, on peut dire.
Ce sont des mauvaises cellules parce qu'elles se reproduisent sans aucun contrôle. Elles bouffent l'énergie du corps humain, elle finit par tuer l'autre.
Mahmoud, merci beaucoup de nous avoir appelés. Parlons de la lutte contre le cancer dans les pays en développement et de l'accès au traitement avec le docteur Saba. Docteur Saba, quels sont les obstacles qui empêchent d'endiguer ce fléau du cancer dans les pays en développement? Alors, on a déjà parlé du problème de dépistage tardif. L'autre problème, c'est quoi? C'est le coût des traitements?
Alors, le coût de traitement, la complexité, mais je crois le moyen le plus important aujourd'hui, c'est le diagnostic. Si on ne sait pas qu'il y a un cancer, on n'arrive pas à le guérir et surtout pas à temps. Donc aujourd'hui, il y a un manque cruel de moyens diagnostiques. Il y a très peu de médecins spécialisés ou de médecins formés pour détecter ce type de cancer. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous travaillons en Éthiopie sur le cancer du sein. En Éthiopie, il y a un cancérologue. Et récemment, ils ont doublé, donc il y en a deux. Et ça ne suffit bien sûr pas.
Pourquoi 80 millions d'habitants?
Oui, à peu près, oui. Donc ça vous donne une idée un peu des difficultés qu'on a au niveau du
diagnostic. On reviendra d'ailleurs sur ces questions de formation avec les deux médecins qu'on aura au téléphone du continent africain, le professeur Ndom et le professeur Morera. On a pour l'instant Ousmane qui nous appelle du Cameroun. Ousmane, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une question à poser?
Oui, j'ai une question à poser. Je voudrais savoir, parce que j'ai eu une tante qui est morte, semble-t-il, du cancer, mais vous savez, il y a plus de 20 ans, je ne sais pas si le diagnostic est vrai, mais sauf qu'elle a eu une plaie au niveau de son orteil droit, et puis ça a empiré, ça ne guérissait pas, elle a été amputée de cet orteil. Donc je voudrais savoir si, à partir d'une plaie qui ne guérit pas, est-ce qu'on peut développer un cancer? Et ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on a un cancer du cerveau, par exemple, le traitement n'affecte-t-il pas les autres parties du cerveau?
C'est-à-dire, vous parlez entre autres de la chimiothérapie, et tellement c'est un traitement, je dirais, difficile, est-ce que ça n'a pas de mauvaises conséquences? D'abord, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre une plaie et un cancer, docteur?
Oui, il peut y avoir. En fait, ce n'est pas la plaie qui provoque le cancer, mais c'est le cancer qui entraîne parfois des plaies qui ne guérit pas parce qu'il y a un cancer sous-jacent. C'était probablement le
dans
cas.
Dans ce sens-là que ça se passe.
Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là.
Et alors l'inquiétude d'Ousmane sur la chimiothérapie, est-ce qu'au contraire c'est un bon traitement ou est-ce que parce que ça a des effets secondaires, ça fait peur et...
Oui, il y a des effets secondaires, certainement. Là aussi, on a fait beaucoup de progrès. Au niveau de la chimiothérapie, on arrive, avant c'était tout azimut, bien sûr le but c'est aussi de tuer ces cellules qui se développent de manière irrationnelle, mais ça a des effets, ça tue aussi des cellules de l'hôte. Mais aujourd'hui il y a de plus en plus de chimiothérapies ciblées et spécialisées, et là il y a beaucoup de progrès au niveau de la médecine avec les thérapies ciblées qui sont encore chères, mais qui arrivent à cibler uniquement les cancers et qui ont moins d'effets secondaires.
Mais vous êtes rassurant, c'est un bon traitement et il ne faut pas en avoir peur.
C'est un traitement ça, important, bah, c'est le seul moyen. Sinon, on va perdre la personne.
Merci beaucoup, Ousmane, de nous avoir appelés.
Priorité santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, nous parlons de l'accès au traitement contre le cancer dans les pays en développement. Et nous avons maintenant au téléphone le professeur Ndom. Professeur Ndom, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes chef du service d'oncologie médicale adulte à Yaoundé au Cameroun. Vous êtes fondateur de l'association Sochimio. Est-ce que tout d'abord vous constatez une nette augmentation des cancers au Cameroun?
Oui, exactement. Le service d'oncologie médicale de l'hôpital général de Yaoundé dont vous parlez a plus de 12 ans d'âge et progressivement chaque année je vois qu'il y a une augmentation du nombre de cas de cancer. Tant en quantité qu'en qualité, c'est-à-dire les différentes spécificités sont là et ces chiffres augmentent.
Et est-ce que c'est une maladie qui est taboue, dont les gens ont du mal à parler?
Il y a quelques années quand même, on n'osait pas parler du cancer. Quand les gens venaient me voir en consultation, on se demandait pourquoi ils venaient me voir. Mais avec l'association Solidarité Chimiothérapie, qui a un programme d'éducation et de sensibilisation, nous avons entrepris des campagnes d'information et d'éducation de la population en matière de cancer. Mais là, les malades arrivent à venir faire des témoignages pour parler de leur cancer et on arrive à parler. Mais néanmoins, la population continue à croire que cancer égale mort et c'est cette idée qui nous pose encore des problèmes pour pouvoir faire plus face à leur mentalité.
Oui, et c'est ça qui freine le dépistage parce que je crois que beaucoup de vos patients viennent trop tard.
Effectivement, c'est ça qui freine. Les gens ne veulent pas entendre qu'ils ont le cancer pour que après ils vont dire qu'ils pourront mourir. Mais le message que à travers nos séances de dépistage, c'est que c'est mieux de dépister un cancer tôt que parce que tôt il y a des traitements.
Ah, on a des petits problèmes de ligne. La ligne est de temps en temps coupée, professeur Ndom. Et est-ce que vous arrivez à sensibiliser le gouvernement camerounais pour avoir justement des moyens de sensibiliser l'opinion publique, des moyens pour travailler, tout simplement?
Alors, vous savez, pour faire un plaidoyer, il faut avoir quand même une certaine carrure. Plaidoyer envers le gouvernement, il faut avoir quand même une certaine carrure, une certaine étoffe. Bon, mais néanmoins, il y a beaucoup d'actions qui sont menées vers le gouvernement, notamment à travers le Comité national de lutte contre le cancer qui existe. Il y a des actions qu'on mène vers le gouvernement pour les sensibiliser sur le coût, les difficultés que rencontrent les malades du cancer. Mais je peux vous dire que la bataille est loin d'être gagnée.
Professeur Sabah, docteur Sabah, pardon, justement, je voudrais vous faire réagir à ces propos parce que pour qu'on avance dans cette lutte contre le cancer dans les pays en développement, il faut manifestement que les gouvernements s'approprient cette bataille et se lancent aussi dans cette bataille. C'est une de vos préconisations.
Oui, tout à fait. C'est vrai que il y a quelques années, quand on a commencé à travailler en Éthiopie, on est allé voir le ministre de la Santé qui a dit ce n'est absolument pas ma priorité. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais bon courage. Mais par contre, avec des actions au début ponctuel des projets pilotes, le ministère a fini par s'engager dans cette lutte. Aussi, il ne faut pas oublier que l'Organisation mondiale de la santé en 2005 a passé une résolution indiquant que le cancer est une priorité et recommandant aux pays en développement de faire des plans nationaux de cancer. Mais il y a encore beaucoup à faire, mais il ne faut pas désespérer. Ça arrive.
Professeur Ndom, au Cameroun, vous êtes combien de cancérologues? Le docteur Sabah tout à l'heure a dit par exemple qu'en Éthiopie, il y avait seulement 2 cancérologues pour 80 millions d'habitants. Vous, quelle est la situation?
Voilà, il faut comprendre qu'en matière de cancérologie, il faut dire qu'il y a des cancérologues médicaux, il y a des cancérologues chirurgicaux, les radiothérapeutes, mais je vous dis que vous devez y prendre les deux mains de la main, les deux doigts. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous n'atteignons pas une dizaine de ceux qui sont formés pour la prise du cancer. En oncologie médicale, par exemple, en activité au Cameroun, je ne dirais pas qu'il y a plus de deux oncologues médicaux formés, à diplômés dans cette spécialité. Les radiothérapeutes, nous en avons en activité à peu près trois. En tout cas, les ressources humaines sont criades, sont très faibles en ce qui concerne la cancérologie.
Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Professeur Jean Lemaire, je voudrais vous faire réagir à ça. Vous êtes président du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Vous vous intéressez justement particulièrement à la formation des médecins africains en oncologie. Vous êtes d'accord avec ce que dit le professeur Ndom? C'est un vrai problème.
C'est un vrai problème, notamment en cancérologie de l'enfant. Mais c'est un problème soluble. On parlait tout à l'heure de l'intervention, des interventions à faire vis-à-vis des gouvernements. Eh bien, les gouvernements, il faut avant tout les informés, ils se font une idée trop dramatique des cancers, et je pense surtout de l'enfant.
C'est ça, le professeur Ndom, il a dit, il faut vraiment savoir qu'on ça se soigne le cancer, il faut faire passer ce message.
Que ça se soigne et que ça coûte moins cher que les gouvernements ne le croient. C'est un peu une espèce de paravent, un prix invraisemblable, ça n'est pas tout à fait exact, et nous avons commencé une action dans ce domaine, on pourra en parler si vous voulez.
C'est ça, mais professeur Ndom, vous ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de médecins, vous vous sentez un peu seul, vous me disiez hier au téléphone quand on préparer cette émission, vous pouvez même pas partir en vacances.
Ah oui, effectivement, lorsque vous êtes le seul à décider d'un protocole de chimiothérapie, vous avez de la peine à vous libérer parce que vous êtes le seul. Et en 12 ans d'exercice sur le terrain dans cette spécialité, je n'ai pas vu plus de deux collègues revenir. Le seul qui est revenu, je peux vous dire que la France a vite fait de le récupérer là-bas. Donc nous avons vraiment de véritables problèmes de ressources humaines et on ne peut pas avancer avec ce nombre de malades croissant. Je vous dis que je consulte maintenant comme au dispensaire. Dites aux oncologues français que je reçois 30 malades en consultation. Moi qui recevais à peu près 5-10 malades, je suis à 30 malades de consultation chaque fois que je dois jouer ma consultation. Et pour un seul médecin, c'est quand même beaucoup.
Professeur Lemaire, vous êtes quand même d'accord avec ça. Il faut absolument améliorer la formation et que les médecins, même s'ils ont été formés dans les pays occidentaux, reviennent dans leur pays.
Oui, bien sûr. Je dois dire que pour la pédiatrie, nous n'avons pas tout à fait le même problème. Nous n'avons pas un seul médecin africain formé en France depuis 10 ans qui ne soit pas revenu sur place. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient, mais en tout cas, c'est possible, là encore. Nous avons formé 12 médecins pendant une durée d'1 an en France chacun. Ils sont revenus avec un diplôme et des compétences, et ils sont tous revenus.
Et vous assurez la formation continue, parce qu'après, on sait que les traitements évoluent.
Nous assurons la formation continue par nos réunions. Nous avons 2 réunions de travail par an, au cours desquelles la formation, la mise à jour de la formation est un élément essentiel.
Professeur Lemaire, quand on parle des cancers pour enfants, vous parlez de quelle forme de cancer, avec maintenant, je dirais, quel résultat de guérison, justement, sur le continent africain?
Ah ben ça, je peux vous le dire, justement, et notamment à Yaoundé, où on vient de parler, nous avons des résultats nous avons traité 1500 cancers de l'enfant en 8 ans et nous pouvons déjà dire maintenant que les résultats se sont beaucoup améliorés. Alors quel cancer? Avant tout, le plus fréquent, c'est le lymphome de Burkitt, qui est très particulier à l'Afrique subsaharienne et qui se soigne par chimiothérapie seule. Les résultats au début, dans les années 2001-2002, ont été mauvais, nous avions beaucoup de complications, les malades arrivaient beaucoup trop tard et maintenant nous en guérissons entre 60 et 70%, ce qui est très honorable.
Un vrai message d'espoir. Professeur oui. Lemaire et docteur Joseph Sabat, on se retrouve après les informations. Nous continuerons à parler de l'accès au traitement contre le cancer dans les pays en développement. Merci d'ailleurs au professeur Paul Ndom d'être intervenu de Yaoundé au Cameroun. Nous irons à Dakar voir ce qui se fait et nous terminerons avec un reportage de Marina Mielzarek qui s'est rendue dans un atelier du goût. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.